you. Bonjour et bonne année. Nous allons parler du tiers paysage aujourd'hui. Et avant de montrer quelle est la genèse et quels sont les exemples possibles existants partout sur cette planète et qui concernent le tiers paysage, je vous en donne la définition. Il s'agit du paysage regardé sous un angle qui est celui d'un naturaliste, d'un écologiste possiblement, et de quelqu'un qui en tout cas s'intéresse à la diversité, c'est-à-dire qui estime que là il y a quelque chose de fondamental, et nous savons aujourd'hui à quel point cette question-là de la biodiversité est fondamentale. La diversité, c'est le nombre des espèces, c'est des espèces animales, végétales, c'est le nombre des milieux aussi, c'est le nombre des comportements, la diversité des comportements aussi joue un rôle dans le terme général de diversité. Mais d'un point de vue plus restrictif, disons, ce terme de diversité, je l'emploie simplement pour le dénombrement, c'est-à-dire ce que l'on peut lister, le nombre des végétaux, le nombre des animaux dans un milieu déterminé. Le tiers paysage, je le définis comme étant un ensemble composé de fragments d'espace, de territoires d'accueil à la diversité. Pour la raison que on s'aperçoit aujourd'hui, depuis déjà un moment, sur cette planète, que cette diversité est en souffrance, qu'elle est chassée d'un certain nombre d'endroits qui sont pratiquement ceux qui se trouvent occupés par l'homme ou sur lequel, un territoire sur lequel l'homme a une action forte, violente et souvent destructrice. Ce n'est pas toujours la ville. La ville est un des lieux qui peut accepter la diversité, mais cette diversité est déjà fortement sélectionnée lorsqu'il s'agit de l'espace urbain. Mais en tout cas, ce sont des territoires où l'industrie s'est installée, l'agriculture s'est installée, l'exploitation forestière s'est installée, etc., le tourisme et le reste. Et donc, il s'agit principalement de lieux dont l'homme ne s'occupe pas, c'est-à-dire que c'est une somme de délaissés. Et parmi ces délaissés, il y a dans ce terme-là, évidemment, la notion d'abandon. Mais il n'y a pas que les espaces délaissés qui intéressent la diversité, puisqu'il y a aussi des espaces, des surfaces dans des milieux extrêmement différents, au sommet des montagnes, au fond de l'eau, où finalement il n'y a jamais eu d'action suffisante, du moins, apparemment, pour venir détruire de façon significative cette diversité, où il n'y a pas d'action délibérée. Et ces milieux-là sont plutôt des espaces intouchés, relativement. Aujourd'hui, presque tout est touché. On a des milieux primaires, on pourrait dire, c'est-à-dire où il n'y a jamais eu d'exploitation particulière et qui sont parfois en réserve. Donc on a en gros trois catégories. Le délaissement, la série des délaissés, qui résulte d'un abandon ou d'une impossibilité d'accès dans une surface que l'on travaille, les réserves et les milieux primaires, les ensembles primaires. Dans tous ces endroits-là, si on les additionne, si on en faisait d'ailleurs la carte, on obtiendrait un ensemble riche en diversité, suffisamment intéressant pour qu'on pointe sur cette carte tous ces endroits, alors en donnant peut-être des valeurs différentes et en disant là, c'est plus important qu'ailleurs, mais en tout cas partout, en disant, il s'agit d'un territoire d'accueil à une diversité chassée de partout ailleurs, donc c'est un trésor, donc c'est notre futur. Donc c'est un patrimoine génétique qui, dans le mécanisme d'invention de la vie, nous prépare quelque chose pour demain. Et à ce moment-là, on regarde le délaissé, et la friche en fait partie, comme quelque chose de complètement différent de ce que l'on n'estimait voir auparavant. Parce que la friche, terme dévalorisant, s'adresse à un territoire qui est abandonné, et c'est un constat de perte du pouvoir de l'homme sur son territoire. Donc c'est évidemment très mal perçu. Pourtant, la friche, et c'est pour ça que je commence par la friche, on va donc baisser un peu la lumière, c'est ça. Voilà. Je commence par là, comme image que vous avez déjà vue, parce que un des mécanismes importants donc du délaissé et une surface importante d'accueil à la diversité, c'est la friche. Le pic de diversité, d'ailleurs, ne se rencontre pas forcément tout à fait au début. Par exemple, sur un champ que l'on a cessé d'exploiter où viennent une série d'herbacées, ni au bout de 5 ou 6 ans, c'est encore relativement, ça s'enrichit, mais relativement pauvre. Ça arrive un petit peu plus tard lorsqu'on a la friche armée et les jeunes arbres. Et ça diminue à nouveau cette diversité sous nos climats, dans nos régions soumises à un climat tempéré. Ça diminue dans la strate arborescente lorsqu'on arrive au niveau climatique qui est la forêt. Où là, ce qu'on appelle l'optimum de végétation, la série des plantes héliophiles chez nous est assez limitée, c'est-à-dire les plantes qui poussent à l'ombre dans une forêt, et la série des espèces qui représentent la forêt elle-même est également assez limitée, sous nos climats. J'avais dit la dernière fois, en abordant le spectre biologique de Ranquière, que sous un climat tropical, on aurait tout à fait une autre lecture, et qu'au contraire, cette diversité serait maximale dans la forêt. Donc voilà l'origine d'un délaissement, la friche avec sa richesse. Et quand on voit aujourd'hui un terrain enfriché, au lieu de s'alarmer, on a tout à fait intérêt à prendre des précautions en disant « Ah tiens, il doit se passer quelque chose là. Certainement, des plantes, des animaux sont venus. » Et en effet, si on en fait un peu l'analyse tout de suite, on s'aperçoit que ce que l'on voit là n'existe pas ailleurs. N'existe pas dans les jardins, n'existe pas dans les parcs, n'existe pas sur les territoires agricoles ou industriels, mais il se trouve dans l'espace sur lequel on ne fait rien, justement. Dans le paysage qui est celui qui massivement couvre notre territoire rural, notre espace rural, on a une part de l'exploitation qui est considérable. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien qui soit dans la situation de délaissement, sauf ce qui est incommode. Sur cette image-là, on assiste, avec ces deux images qui se succèdent, à une inversion du paysage en 40 ans. Voilà, par exemple, ce qu'il y a 40-50 ans, ce qu'il y avait à peu près un peu partout, de façon un peu répartie, dans le territoire rural, les zones qui sont ici en pente, était également occupé par les pâtures, par les animaux. Les haies, les arbres isolés, les boqueteaux, les forêts étaient disséminés et les parcelles étaient très nombreuses sur les parties qui sont les plus planes et qui aujourd'hui, au contraire, ont été reprises avec un remembrement complet et une élimination de la totalité de cette végétation, pratiquement totale, pas toujours, mais presque. Et au contraire, dans les parties en pente, ça s'est boisé. On a donc vu arriver, sur ces sortes de landes xérophiles ou des pâtures, des prairies, qui étaient toujours utilisées par des bergers avec des moutons, avec des chèvres, une diversité particulière qui est devenue arborescente petit à petit, et ça s'est transformé en boqueteaux. Les ripisylves se sont jointes, d'un point de vue du paysage du moins, à la masse arborée, et ça a fini par simplifier le paysage, mais aussi par l'inverser, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ces écrans qui donnaient une grande profondeur et un certain mystère au paysage plan. Par contre, on ne voit plus non plus, d'ailleurs, quand on est situé dans des zones comme celle-ci, le fond des rivières, parce que c'est entièrement masqué par une masse boisée. Et en revanche, on a quelque chose qui est une diversité de végétation arborée qui correspond au délaissement d'un espace qu'on a désiré ne plus exploiter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas commode. Les machines ne sont pas venues là. C'est très rare que l'on ait des machines conçues pour la pente, sauf en montagne. Il y a d'ailleurs dans les Pyrénées, surtout les Pyrénées, mais dans les Alpes aussi, des petites machines très adaptées à la pente qui permettent de faire quand même que des moissons, des fauches, surtout des fauches, évidemment. Dans les Alpes suisses, on voit ça. Mais c'est exceptionnel. Et partout ailleurs, on assiste à cette inversion forte du paysage. Alors, c'est au bénéfice d'une masse arborée très importante qui fait qu'aujourd'hui, on a en biomasse boisée des quantités bien plus considérables qu'il n'y en avait au début du XXe siècle. On ne s'en rend pas compte, mais la France est beaucoup plus boisée. Il n'est pas forcément plus facile à exploiter ce bois qu'autrefois, certainement pas, puisque d'ailleurs, si justement on l'abandonne même à l'exploitation forestière, c'est parce que ce n'est pas commode du tout, mais il n'empêche qu'elle est là, et d'ailleurs, ça coïncide avec une vie animale très forte qui vient là-dedans. Les sangliers se sont multipliés à la faveur du tiers paysage dans à peu près tout le sud, pour commencer, en particulier dans les zones des Cévennes, de l'Ardèche, mais enfin aussi du sud-est, absolument partout. Ce sont des sangs-cochons hein, et des cochons-gliers. Ça dépend comment vous prenez l'hybridation. Et, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de portée, deux fois plus que les sangliers d'origine. Donc, ce sont énormément multipliés dans ce tiers paysage qui est passé de territoires complètement exploités, quelquefois même en terrasse, comme en Ardèche, je montrerai tout à l'heure, à des boisements où plus personne ne va, sauf la flore du gros gibier. Voilà, par exemple, sur la vallée de la Creuse, un paysage que moi, j'ai vu évoluer personnellement pendant de nombreuses années. Un boisement qui est sur les pentes les plus fortes, qui a d'ailleurs gagné en profondeur par rapport à cette image, et quelques landes relictuelles qui sont demeurées pour des raisons touristiques, uniquement des raisons touristiques, c'est-à-dire qu'elles sont maintenues artificiellement puisqu'il n'y a plus de pâture, mais ça correspond au paysage que les impressionnistes, car il y a des impressionnistes qui sont venus à une certaine époque, même Monet est venu là, et Guillaumin, qui était l'impressionniste principal de cette région, de la région de Crozant, donc où on a maintenu comme ça, vous voyez, c'est nostalgique, ça ne correspond plus du tout à aucune espèce d'économie locale. Voilà ce qu'étaient ces landes, parce qu'elles sont disparues. Dans un sol acide, ce sont des landes à bruyère, avec une calune et une érica, qui aujourd'hui sont gagnées donc, par les boisements à toute vitesse, et pratiquement... Ça, comme je vous le disais, complètement disparu, sauf dans les endroits où le sol est tellement squelettique que les arbres eux-mêmes ne parviennent pas à pousser. Et dans une lande climacique, ce qui est assez rare, la lande climacique est une lande stabilisée, on a une diversité qui est basse, avec beaucoup de camaïphites végétaux qu'on avait envisagés la dernière fois avec le spectre de Ranquière. Ces refuges donc, à cette diversité se trouvent dans des linéaments parfois très très étroits. Ici, on est dans la Drôme, mais massivement, bien sûr, dans les boisements spontanés. La diversité des végétaux dans ces boisements se dénote au moment de l'automne, quand vous voyez les érables, par exemple, se colorer. Ou les cotinus ou les autres, on est sur un sol calcaire à cet endroit-là. Trois mécanismes propres au DLC. L'un qui est l'abandon, on vient de le voir, l'autre qui est la soustraction, c'est-à-dire qu'on a un territoire qu'on tente d'exploiter complètement, mais on a beau renier, on y arrive à laisser vraiment ce qui n'est plus du tout exploitable. On voit bien ici ce que ça signifie, que cette apparition du délaissé par la soustraction. Et ou là encore, là on était à l'île Maurice, excusez-moi, je précise, c'est un champ de canne et on n'arrive plus à les faire pousser sur cette espèce d'îlot qui devient un lieu trop sec, trop rocheux, ou ici, ou trop humide, des territoires qui n'ont jamais été colonisés par les constructeurs de la ville dortoir de Soweto. Et c'était considéré comme malsain, et d'ailleurs ça a permis de séparer les ethnies. À l'époque, ce dortoir fait que de populations indigènes étaient composées d'ethnies différentes. Aujourd'hui, ça c'est un peu compliqué. C'est un délaissé quasi volontaire. Et la troisième cause importante, donc c'est la soustraction, abandon, c'est l'aménagement. Tout aménagement génère un délaissé. Il y en a des petits, il y en a des grands. Vous voyez, par exemple, ici, on ne va pas savoir quoi faire de ce territoire dans cette boucle ou dans ces minuscules espaces qui se trouvent ici. Ou dans n'importe quelle construction. Et ça tient beaucoup à la technologie d'aujourd'hui, parce qu'un chemin autrefois, ou une construction d'une maison, ou la culture d'un champ, générait beaucoup moins de délaissement, d'espace sur lequel on ne fait plus rien, tout simplement parce qu'on arrivait à aller dans les coins. Et on avait des outils beaucoup plus petits. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Et quand on fait une grande courbe pour des rayons de courbure, des nécessités de faire passer des camions ou autre chose, des grands convois, eh bien forcément, on va laisser des espaces dont personne ne saura que faire. Et c'est la même chose partout, y compris évidemment en ville. Donc on voit bien sur ces images comment le territoire agricole, forestier, l'exploitation fruitière, etc., se combine avec une série de systèmes routiers et là où se trouvent les espaces délaissés. Ça, c'est une photo prise directement dans l'axe historique de Paris. On est dans la ville, précisément. Et on n'a pas su quoi faire de ça. On ne sait toujours pas. Hein. Ce qui n'est pas mal. C'est pas mal du tout, puisque finalement arrivent ici des espèces auxquelles on ne s'attend pas, souvent des exogènes, ça c'est pas inintéressant, quelquefois une flore native, mais peu importe, il y a une combinaison très très riche sur cet axe, dit l'axe historique de Paris, qui traverse Nanterre à cet endroit-là, et Roger Després de la Ferme du Bonheur, il fait pâturer ses animaux, il y a des animaux qui viennent là, en Paris. Alors, pourquoi j'ai choisi d'appeler cet ensemble de territoires qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres? Physiquement, ils ne se ressemblent pas. Je vais en montrer quelques-uns. Pourquoi j'ai choisi de l'appeler tiers-paysage? C'est que l'analyse a été faite au départ, c'est en 2002, autour du lac de Vassivière en Limousin. On est donc dans une partie qui est un paysage harmonieux, boisé, avec un équilibre heureux, disons, entre... Les creux, les bosses, entre les masses sombres que sont les forêts et claires que sont les prairies, c'est une caractéristique de ce Limousin. Je cherchais la diversité. J'avais bien vu ces espèces, je les connais, ces grandes forêts et ces pâtures. Je ne la trouvais ni dans les forêts, qui sont des forêts exploitées, ni dans les pâtures, ou avec un nombre en grande diminution. Pourquoi ? Parce que lieu traité. On traite aussi l'herbe pour les vaches, parce qu'il faut augmenter la quantité d'herbe à donner à manger à ces animaux. Bon. Donc on vient, avec une pression très très forte, diminuer toute une diversité frugale. On n'a plus que les nitrophiles, c'est-à-dire les plantes gourmandes, puisqu'on a rajouté de l'engrais. Voyez. Donc c'est très sélectif. Et je me disais, ben voilà, un paysage comme le Limousin, comment je le définirais, il y a une partie sombre, la masse boisée, une partie claire, avec cet équilibre heureux, comme je disais, mais bon, les pâtures. Et pour moi, le troisième paysage, celui qui exprime le mieux la vie, finalement, c'est celui de la diversité. Et j'ai donc appelé le troisième paysage. Et puis je me suis dit, non, troisième paysage, je préfère me référer à tiers, tiers-état, comme tiers-état. Et non pas comme tiers-monde, mais comme tiers-état. Ça renvoie à la parole de Sieyès qui dit... À un moment donné, c'est le moment de la Révolution française, qu'est-ce que le tiers-État ? Ben, c'est tout le monde, c'est justement toute la diversité. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent ? Pas grand-chose, mais pas les moyens. Qu'aspire-t-il à devenir ? Quelque chose. Alors, je ne dis pas que ce tiers-paysage dont je parle, représenté par sa diversité, aspire à devenir quelque chose de lui-même. Mais nous avons besoin de lui, puisque notre futur est lié exactement à cette richesse-là. Puisque nous exploitons la diversité, nous en dépendons. Donc nous avons intérêt à avoir le plus grand éventail possible de cette diversité. Par conséquent, tous les fragments d'accueil à cette diversité sont des lieux que nous devons protéger ou regarder avec bienveillance. Quand j'ai écrit ce petit manifeste qui s'appelle le manifeste du tiers-paysage, qui maintenant est en plusieurs langues, est accessible en copyleft hein, sur le site, donc vous pouvez le télécharger, on m'a dit, oui, mais si on dénonce le lieu de la richesse va être pillée. Et là, je ne crois pas. Bien sûr, c'est possible. De toutes les façons, il y aura toujours des pilleurs. Mais il y a sans doute une façon meilleure de protéger cette diversité par l'accroissement de la connaissance que l'on aurait sur cette diversité elle-même dans ces lieux-là que de maintenir l'ignorance en disant « Non, vous n'avez pas à regarder ça, ça ne vous regarde pas ». Évidemment, comme je dis souvent, quelque chose qui n'a pas de nom n'existe pas, on peut bien détruire ce qui n'existe pas. Tandis que ce qui a une consistance et qui représente une richesse, on regarde à deux fois pour la détruire. Donc je pense quand même qu'en en parlant, on protège. Le Limousin, le voici. l'exploitation forestière massivement qui date du début du XXe siècle. C'était un pays de landes, pauvre. Et tout subitement, on a décidé, c'est quasiment une décision gouvernementale, d'en faire une région boisée, et, avec des conifères. Donc là, stérilisation du sol, venant de l'acidité de la culture de ces arbres, très proches les uns des autres, sans aucune diversité. Mais vous voyez sur cette image qu'on a pratiquement une espèce ici, très peu ici, mais beaucoup apparemment, en tout cas ça se voit à l'œil nu, dans un interstice qui est abandonné, à l'exception de ce qui est directement autour des maisons, où là il y a des gens qui s'occupent un peu, mais pas pour le reste. Et c'est là que je trouve cette diversité, donc dans les lieux d'abandon, qui sont très variables. Vous voyez sous un bois de conifères, mais ça, sans doute, vous avez déjà rencontré ces paysages extrêmement stériles. La façon dont on exploite est très brutale. Au moment où on replante les arbres, il y a en même temps des végétaux qui viennent. Là, il y a un moment riche. Et puis, ça redisparaît de nouveau lorsqu'ils poussent, parce qu'à leur ombre, tout disparaît. Aujourd'hui, l'ONF a changé un peu ses techniques depuis la tempête Lothar, qui a eu lieu en 99-2000. Ils se sont posé la question, justement, dans cette région, on avait discuté avec eux, de savoir s'il ne vaudrait pas mieux laisser revenir les végétaux par eux-mêmes. Il y a des semis, d'ailleurs, de ces conifères qui ont lieu, mais bien sûr aussi de feuillus. Et donc, des semis spontanés, et ensuite de faire la sélection, puis la récolte, petit à petit, ce qui serait évidemment aucun coût à la mise en œuvre. Donc, c'est avantageux. Un coût, par contre, à l'exploitation, qui était à recalculer, et aujourd'hui, ils sont encore sur ces estimations. Le Centre d'art et du paysage, ça s'appelle comme ça maintenant, existe sur l'île de Vassivière, et au moment où il y a eu cette tempête, une diversité de plantes pionnières, qui sont typiques des clairières, sont arrivées, les épilobes en faisaient partie, mais tout autour, il y a un ensemble, disons, de milieux relativement stables, qu'on peut assimiler à des espaces de réserve, parce qu'il y a très longtemps qu'ils sont là. C'est des espèces de réserves non déclarées. Certaines sont protégées. Maintenant, les tourbières le sont, par exemple. Mais pendant toute une époque, elles ne l'ont pas été. Les plans d'eau sont riches. Quand on voit arriver des potamogétons, des plantes comme ça, dans une eau douce, quelque part en France, on se dit que l'eau n'est pas polluée. On fait partie de ces régions, vous savez, qui sont situées juste au bord du château d'eau de la France, d'un des châteaux d'eau, et il y a là quelque chose de très très fragile, parce qu'il suffirait de polluer cet endroit-là, le plateau de 1000 vaches, qui veut dire 1000 sources, pour que la totalité de toutes ces eaux soit complètement disqualifiée biologiquement. Donc là, on a encore des milieux qui sont très intéressants et où justement la diversité apparaît. Ce sont des milieux où l'homme ne va pas. Et ça, c'est un petit étang qu'on avait appelé l'étang du Héron, qui se referme progressivement, qui va devenir une sorte de tourbière et qui elle-même va se refermer. Et toutes ces mécaniques, on les voit au fil du temps. Ce sont des temps parfois extrêmement longs. La tourbière se bombe, puis elle se boise. Et ça, c'est une tourbière bombée et déjà boisée, avec une diversité très, très spécifique. Et une tourbière encore extrêmement ouverte, mais où l'eau n'apparaît plus, mais qui, aux yeux des habitants de toute une génération, était considéré comme un endroit où on ne pouvait rien faire, et qui donc était dévalorisé par ce seul fait. Et c'est devenu pour partie des décharges. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais cette photo n'est pas ancienne. Elle date de 2001. Ça fait 10 ans. 11. Allez. Les ripisylves font partie de ces lieux de richesse, parce que chaque fois, il y a une diversité qui s'ajoute. Vous voyez, ce sont des espèces inféodées à ces milieux typiquement. Le bouton d'argent, on ne le rencontre que dans des conditions très particulières. Dans ces milieux-là, toutes les espèces de la lande xérophile, là on voit un milieu mixte où il y a de ce boise petit à petit, on voit bien que c'est dans les pentes qu'on a tout abandonné, constituent des séries floristiques très particulières, très à part, et on peut dater. C'est-à-dire par exemple, cette voiture, elle ne pourrait pas rentrer maintenant, ni sortir d'ailleurs, parce que les arbres ont poussé partout. Donc elle est tombée à une époque, et les arbres ont poussé tout autour. C'est une friche qui est boisée, c'est devenu un boisement maintenant, qui a une 50aine d'années. Alors, on peut le voir avec la marque de la voiture. Cette image qui était très précieuse pour moi, parce qu'on voit bien ici la diversité qui apparaît dans un territoire d'abandon, qui apparaît sur un bas-côté, on va revenir sur le bas-côté, sur les routes, la richesse du bas-côté, et puis qui est un petit peu moins importante, mais qui existe aussi dans la strate délineée au fond, qui est un niveau climatique. Et alors, une diversité dont je ne parlerai pas là, parce que celle-ci est un autre sujet, mais qui est très intéressante, et qui est celle que l'homme maintient au fil du temps, dans toute son histoire, notamment l'histoire de l'agriculture depuis la révolution agricole. Donc c'est vraiment quelque chose de très précieux là aussi. C'est une diversité qui est très, très menacée. Vous savez, avec les récentes lois iniques, inacceptables sur les semences, on voit disparaître le nombre d'espèces qui correspondent plutôt à des variétés d'ailleurs, de toutes ces espèces qui sont vivrières et qui sont tout à fait liées à des zones climatiques particulières, pour n'autoriser que celles qui sont homologuées et qui appartiennent, encore une fois, au pouvoir, au lobby. C'est totalement inacceptable, hein, pour des raisons qui sont liées à la vie des gens. Et ceux qui vivent dans un climat comme celui-ci ont intérêt à avoir facilement de l'épeautre et non pas un blé qui serait très gourmand en matière organique, par exemple. Donc cette diversité artificiellement maintenue par l'homme, je n'en parle pas dans le tiers paysage, parce qu'il s'agit bien des espèces qui viennent toutes seules, qui n'ont besoin de rien. Voilà dans un marais comblé à Tadon, près de La Rochelle, des espèces complètement exotiques, puisqu'il y a un mélange entre des piracanta, des cotonées astères et des cortaderia, donc des plantes d'origine diverse dans le monde, beaucoup américaines, mais chinoises aussi, et qui viennent coloniser ce lieu récemment abandonné, qui avait été comblé d'ailleurs, un marais comblé contre la loi, parce que ces marais étaient protégés. Donc ça a fait toute une polémique à l'époque. Une friche au Chili, à partir d'un rosier qui, lui, est chinois. Il n'existe pas de genre rosa au Chili. Et donc ça, c'est une combinaison nouvelle. Ça fait partie de ces mécanismes qui appartiennent au brassage planétaire dont j'ai déjà évoqué les grandes lignes lors du jardin planétaire. Et bien entendu, les espaces urbains font partie aussi. Tous les délaissés urbains sont à intégrer à toutes les échelles à la notion de tiers paysage. Les chemins sont d'une très grande richesse pour des raisons diverses. Pas forcément uniquement le sol et le bas-côté, ça c'est un chemin rural très étroit qui d'ailleurs a été complètement détruit maintenant, mais aussi bien sûr les haies qui représentent des micro-milieux avec des zones climatiques extrêmement différentes suivant qu'on se trouve de ce côté-ci ou de l'autre côté et qui acceptent une diversité considérable. C'est dans les haies qu'on trouve le plus grand nombre d'auxiliaires du jardinier, des insectes et des mammifères et parfois autres qui viennent nous aider dans notre jardinage. Donc on voit bien ici ce que signifie que la diversité, tout ce qui fleurit dans nos climats, par exemple, les quelques orchidées qui poussent en sol acide dans le centre de la France se trouvent sur les bas-côtés de la route. Elles ne se trouvent pas de l'autre côté de la haie où on cultive, évidemment pas sur la chaussée. Donc ces petits endroits très étroits accueillent des espèces qui sont dans une situation très difficile, parce qu'il suffit que le gestionnaire fasse les choses de travers pour que passe au mauvais moment, par exemple. Car là, il y a quand même une mainmise. C'est la seule exception que je fais dans la série des territoires d'accueil à la diversité, dans le tiers paysage, ce sont les bas-côtés des routes. Pour moi, c'est si riche et on y intervient si peu que je trouve que ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Mais il y a tout de même le gestionnaire, une fois de temps en temps, qui est quelqu'un qui arrive avec une grosse machine. Je plaide pour le cantonnier paysagiste. Mais on n'y est pas encore, au cantonnier paysagiste, parce que ce serait celui qui pourrait reconnaître, à partir du feuillage, quelle est l'espèce qui va fleurir, par exemple, et qui ne viendrait couper ces plantes-là qu'au moment où elles auraient elles-mêmes fini leur cycle. Et quand vous coupez les fleurs fanées de l'orchidée, si vous n'avez pas attendu l'orchidée terrestre, c'est ce qu'on a vu, c'était Orchis laxiflora tout à l'heure. Si on n'a pas attendu que le feuillage soit complètement jaune, le bulbe en dessous n'a pas eu le temps qui est un faux bulbe, n'a pas eu le temps de se reconstituer. Donc c'est fini, la plante disparaît à ce moment-là, oui, complètement. À quel moment doit-on venir? Est-ce que c'est juste le calendrier du gestionnaire, qui en général est un concessionnaire de la mairie, puisqu'il n'y a plus de cantonnier, ou est-ce que c'est quelqu'un qui porte une attention sur ça? Oui. la réponse. Bon, il y a aussi des délaissements qui proviennent de ce que l'animal laisse. C'est très intéressant. Il y a les laisses de mer, il y a les laisses des animaux. Et ils ne mangent pas tous la même chose. Le cheval n'aime pas la menthe, donc il laisse la menthe. Ça crée des écosystèmes. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans une prairie alpine ou dans une autre prairie sur l'apparition des espèces qui n'ont pas été broutées, par exemple. Et puis, il n'y a pas d'échelle au tiers-paysage, comme il n'y a pas d'échelle au paysage tout court. Bien sûr, ça, ce sont des lichens, je vais revenir dessus. Les réserves font partie de ça. Aujourd'hui, presque tout assez menacé, mais enfin, il y en a qui sont bien institutionnalisés. Ça, c'est une mangrove. Les mangroves sont convoitées. Celle-ci est au Gabon. Bon, on voulait faire, c'est un peu en train de se calmer, mais des grandes stations touristiques dans ces endroits-là. La mangrove est un écosystème tout à fait extraordinaire où tous ces arbres que vous voyez là sont pratiquement dans l'eau. Ce sont des rhizophoracées, des plantes qu'on appelle les palétuviers, un nombre réduit d'espèces arborescentes, un très très grand nombre d'animaux qui vivent de ces végétaux, de ces protections-là et du mélange de l'eau douce et de l'eau saumâtre. Et toute une source de protéines très considérable pour la nourriture des humains vient de ces milieux-là. À tel point, vous savez qu'au Vietnam, après les passages au napalm par les Américains lors de la dernière guerre du Vietnam, eh bien, les Vietnamiens ont décidé de replanter des mangroves. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Planter une mangrove, c'était parce que c'était tellement important pour la survie qu'il fallait le faire. Ben, cela dit, c'est un milieu spontané, bien sûr. Les milieux comme cela, la forêt japonaise ici, qui est protégée, parce que, protégée partiellement. Il y a deux espaces avec des statuts différents, l'un qui est exploité, l'autre qui est complètement sacré, et qui finit par transformer ce milieu forestier en réserve. Donc on est dans un délaissé singulier, si vous voulez. Il est par respect. Alors que peut-on faire avec ce tiers paysage? Que doit-on faire ou que peut-on faire? Premièrement, sans doute, le repérer. Ce repérage fait l'objet d'une cartographie. C'est une des premières choses que l'homme fait sur son territoire pour se diriger et pour savoir quelles sont ses balises, les lieux où il va aller, ceux où il ne va pas aller, ne serait-ce que pour ne pas les traumatiser. Avec Patrick Bouchain, qui faisait à ce moment-là une étude pour le passage en l'an 2000, commandité par la Caisse des dépôts et consignations à l'époque. Il s'agissait de faire un geste. Et nous avons fait une étude, non pas, ce n'était pas une construction, ce n'était rien du tout, ni un projet d'aménagement, mais une analyse territoriale à travers un certain nombre de délaissés qui étaient situés un petit peu partout en France, alors Paris. Là, vous voyez la partie est de Paris. Paris est gros comme ça. Donc, c'est toute la zone est ici. Et tout ce qui apparaît sur cette carte, en vert, c'est ce que, officiellement, on vous dit être des bois, des jardins, des forêts. Et puis, ce qui, en fait, est en rouge, sont des espaces délaissés. Mais il suffit de les colorier de la même façon, parce que les oiseaux, ils ne voient pas la différence, hein, pour que, finalement, apparaisse la biomasse du vivant. Et vous pouvez dire, c'est tout aussi important. Donc, le code coloré sur une carte, il est fondamental. Donc on avait fait tout ce repérage, alors ça a donné lieu à un petit ouvrage qui s'appelle « La forêt des délaissés » puisqu'il y avait aussi une recherche de qu'est-ce que ce serait que l'économie d'un délaissé, qu'est-ce qu'on peut en faire. Je renvoie donc à ce travail que vous trouverez certainement. D'une autre façon, il m'avait été demandé, il s'agit aussi d'une cartographie, vous voyez là, de faire un projet de carton de tapisserie. Je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je ne suis pas tapissier ni cartonnier, je ne sais pas comment on appelle. Bon, mais je me suis dit, je vais parler de ça, puisque c'était le sujet qui m'occupait à l'époque, et qu'en plus, la commande venait de Felletin et Aubusson, c'est-à-dire les villes où on fait encore de la tapisserie dans cette région. Et les villes, voilà la ville d'Aubusson et voilà la ville de Felletin. Ça, c'est la Creuse, qui prend ici un axe nord-sud, et la vallée de la Roseille. Ce qui est montré avec des taches rouges foncées, ce sont des masses boisées, gérées. Ce qui est en clair, ce sont des espaces ouverts, exploités. Donc en somme, ces deux couleurs-là donnent l'activité importante, visible de l'humanité sur son territoire. Et au contraire, ce qui est abandonné, le délaissement vient dans les espaces en pente, c'est-à-dire le long des vallées, quelquefois sur les plateaux, mais en toute petite surface, et c'est en orange et en rouge, et en jaune. En orange et en jaune. Il y a 8 km entre les deux. Je vous donne l'échelle du territoire. Finalement, ce qui a été tissé à travers plusieurs essais de couleurs pour voir comment on pouvait exprimer cette idée, c'est les seuls espaces de tiers paysage, en éliminant toute autre expression qui pouvait nuire à la lecture, à la compliquer, et en ne faisant apparaître l'activité humaine uniformément par cette espèce de gris moiré. D'ailleurs, c'était assez touchant de voir comment les tapissiers, parce que c'est un art très fin, respectaient mes propres maladresses. Et ils ont fait tous les gris différents qui viennent simplement des coups de craie grasses. Vous savez, d'un côté, l'autre, ça ne prend pas la lumière de la même façon. Et ça donne ça. C'est une tapisserie qui fait 8 mètres carrés, qui est posée dans la médiathèque de Feltin, qui s'appelle Le Tiers Paysage. Et il y a des petits cartons d'explication quand même en dessous, parce que sinon, on serait un peu perdu. Voilà. Une autre fois, toujours pareil, en parler, on m'a demandé de parler de cette question-là au Centre canadien d'architecture. Donc, on est à Montréal. Et là, j'ai fait la proposition d'un objet qui est en volume, parce que c'est très difficile dans un milieu complètement à l'intérieur d'un bâtiment, de parler de cette question qui demanderait qu'on soit sur le terrain, plutôt. Ou alors, comme on l'a vu tout à l'heure, des représentations cartographiques. Non. J'ai choisi cette solution-là. Ce sont des inclusions et qui sont des boules de résine suspendues. Ça s'appelle le lustre. Et on n'a pas pu tout mettre, hein, parce que c'était tous les éléments de diversité que nous avons prélevés sur un délaissé qui est directement derrière le bâtiment du CCA, qui est un gros bâtiment comme ça, étaient très très nombreux. On a fait un choix, et si on avait tout mis, le plafond serait effondré, donc ça n'allait pas. Et il y a le texte qui expliquait ça, mais on avait aussi mis quelques éléments de l'industrie humaine, parce que ça fait partie, finalement, de ces espaces délaissés. On s'est donné des choses comme ça. Et l'ombre, ce n'est pas le lustre qui éclairait, mais il était éclairé. Il s'agissait de montrer l'importance de la diversité. Ça finissait par faire ça sur le sol. Et il y avait un certain nombre d'explications, avec notamment les photos de milieux dans le monde appartenant à cette notion-là, sous des thèmes, des sous-thèmes, disons, très, très différents, sectorisés, et puis les traductions en anglais. Plus proche, plus récemment, à l'occasion d'une exposition à Beaubourg, qui s'appelait Air de Paris, la somme des objets que nous avons, objets animaux, végétaux, objets tout court, si possible, on n'a pas pris d'animaux vivants, on a pris des tests, c'est-à-dire des coquilles ou des choses comme ça. Nous avons énoncé en suspension sur le fond du paysage parisien vers le nord dans cette exposition à Beaubourg. Et la friche est celle-ci. C'est une friche qui est, encore une fois, sur l'axe historique de Paris, une friche très menacée, d'ailleurs, hein, par l'aménagement. Le jour où on aura accepté un morceau de tiers paysage dans la ville, on aura fait un énorme progrès. Hein. Et d'ailleurs, voilà, une ville qui nous a demandé, Montpellier, récemment, avec l'équipe Coloco, le collectif Coloco, un travail sur ces délaissés. Ayant pris la mesure de cette question-là, ayant bien compris que le tiers paysage pouvait être un outil politique de gestion du territoire, nous ont demandé l'analyse des délaissés dans toute la partie sud de la ville. Et enfin, aujourd'hui, ça s'étend récemment, on vient de le savoir, à une commande un peu plus étendue encore. Et cette cartographie-là montre un certain nombre d'espaces qui sont souvent étroits, hein, et qui ont quand même parfois des grandes ampleurs, sont parfois connectés, et à d'autres fois, nous avons suggéré les connexions simplement pour insister sur la nécessité du continuum biologique dans une ville. Avec ça, trois propositions. Là, pour le coup, on arrive à non plus la cartographie et le repérage, qui sont deux choses très importantes, comment on en parle, qu'est-ce qu'on fait avec. Mais aussi, peut-on faire un projet véritablement? Eh bien là, on dit peut-être trois modes d'exploitation ou de non-exploitation, d'ailleurs, du tiers paysage dans un espace urbain comme Montpellier. Le premier, parce que l'on est devant une école, parce qu'on est dans un quartier où il y a besoin d'espace, parce qu'il faut pouvoir mettre des jeux, pouvoir se promener, etc., on l'aménage, c'est-à-dire on fait une proposition d'aménagement, un peu traditionnelle, disons, même si dans le détail, il ne le serait pas, mais enfin, sur le principe, on aménage, on intervient. On intervient, donc ça cesse de se trouver dans la catégorie du tiers-paysage. Deuxième, on est mixte, c'est-à-dire on intervient si peu, on donne une si grande place à l'espace dans l'état de nature, dans l'état dans lequel il se trouve, que finalement on ne va faire qu'y passer comme un chemin, si vous voulez. Et le troisième, on ne fait rien. Et on dit pourquoi on ne fait rien. On dit voilà, là on ne fait rien parce que c'est très important de ne rien faire. Parce que là se trouvent des espèces dont on a absolument besoin, on ne sait pas comment les garder autrement. Elles sont venues pour nous gratuitement. Et qu'est-ce qu'on va faire de mieux ? Et donc, ils ont accepté ces propositions-là, sur lesquelles maintenant on travaille dans le détail, évidemment. Ça, c'est une autre cartographie, qui donne lieu qu'à une étude. On n'est pas sur le projet, mais enfin, c'est toute l'île de Lanzarote. Avec, on voit de ce côté-ci, tout ce qui est en rouge, c'est le tiers-paysage. La partie, disons, massive qui a été, qui est résultée d'ailleurs, d'explosions volcaniques successives qui ont fait grandir l'île d'un tiers pratiquement de sa surface entre le 18e et 19e siècle. Et c'est très très long à se recoloniser d'un point de vue de la végétation. Donc c'est pauvre, les humains n'y sont pas allés. Il y a pratiquement, c'est un terrain abandonné. Et puis, de très nombreux espaces qui autrefois étaient utilisés dans des conditions extraordinaires, de difficultés, parce que s'il pleut 15 jours par an et encore, donc c'est très dur, sont devenus de plus en plus abandonnés. C'est une île touristique. Alors là, la quantité d'espace réservé à ce type de paysage était très grande, mais comme il s'agissait d'en parler, de faire une exposition sur ce sujet, j'en avais fait le relevé. Vous voyez le milieu difficile dans lequel on se trouve et dans lequel quand même les humains ont cultivé, vous savez, les vignes de la Jeria, j'en parlerai lors d'une autre leçon. Et puis la tuna, c'est-à-dire les figuiers de Barbarie qui ont donné lieu à ces cultures, des cochenilles à partir desquelles on tirait les colorants, ainsi de suite. Donc des plantes adaptées, mais enfin dans un milieu d'une ingratitude immense. Plus récemment encore que ça date, l'immense territoire de 250 hectares devant Buenos Aires, sur le Rio de la Plata, là, la ville voulait gagner du terrain pour s'agrandir. Il y a eu la crise, c'est pas mal les crises. Hein. Et alors donc, elle s'est arrêtée. Et tous ces gravats sont devenus un territoire qui aujourd'hui est déclaré la réserve écologique de Buenos Aires. Bon, c'est assez intéressant, c'est devenu un parc que l'on pratique, et avec des plans d'eau, on est au bord du Rio de la Plata lui-même, avec les déchets qui restent encore visibles, et qui tous n'ont pas été recouverts par la végétation, mais finissent par disparaître quand même. Des chemins, d'ailleurs, qui sont parfois réalisés avec le broyat de ces matériaux qui avaient été mis, et des paysages aussi étranges que ceux-là, attractifs aussi, hein, bien sûr, et pour lesquels on n'a rien fait, il n'y a rien eu de mise en œuvre, on a laissé faire la nature. C'est le plus grand parc de Buenos Aires aujourd'hui, bien sûr. Une action mineure et fondamentale, initié par un homme assez génial, qui s'appelle Maurice Soudière, et qui lui prend le délaissé comme un trésor, mais depuis toujours, sauf qu'il ne le nommait pas tiers paysage, et il greffe tout. Alors, à partir d'un pommier sauvage ou un poirier sauvage, il va faire un arbre fruitier extraordinaire, à partir d'un datura, est une herbacée. Il va greffer une autre herbacée comme une aubergine pour en faire des fruits dans des lieux où de toute façon, ces plantes, l'aubergine ne pousserait pas, mais le datura pousse. Donc le porte-greffe va donner la vie à quelque chose dont on va tirer un profit. Il intervient sur le tiers-paysage avec une extrême délicatesse, puisqu'il s'agit juste d'une greffe, mais le tiers-paysage devient un lieu de production. Ça, c'est complètement extraordinaire. Ça s'appelle la forêt fruitière. Alors, il fait un peu des choses étranges, hein. Chose que les gens n'ont jamais réussi à faire. Il y a un pistachier sur une térébinthe. On voit ici la térébinthe, etc. Un châtaignier sur le chêne vert. Donc il y aura des châtaignes. Ainsi de suite. Ça vaut la peine de se renseigner sur les travaux de Maurice Chaudière. toujours en parlant, mais à la fois en rentrant aussi dans l'aménagement, le belvédère des Lichens est un lieu qui est placé sur un sommet en Ardèche, le long d'un sentier qui s'appelle le sentier des Lauzes, et qui domine toute une vallée qui, elle, est entièrement un tiers-paysage. C'est-à-dire que ça a été abandonné au début du XXe siècle. Tout ce qu'on voit là a été cultivé, mais tout. Il y avait des restants qu'on appelle des failles là-bas, partout. Il y avait bien sûr des châtaigniers, mais il y avait surtout des cultures. Cette série de plateformes qui ressemblent à des flaques posées sur les rochers sont en fait des lieux pour se poser soi-même et puis observer ce que c'est que ce tiers paysage considérable qui arrive comme une grande masse forestière. Je parlais tout à l'heure des animaux qui y vivent. Il y a un petit livre qui est adjoint à ça et qui permet de comprendre toute la dynamique, la progression, l'évolution de ce territoire. Vous voyez, c'est toujours la même chose, c'est une inversion, sauf que les espèces ne sont pas les mêmes. Adjoint à ce livre-là, un autre qui s'appelle « Les lichens du Belvédère », où là, Corinne Beauvais, qui est une lichénologue, ça existe, nous a fait la liste. Moi, je pensais qu'il y avait, avec ce double regard posé, le lointain, le tiers paysage, la transformation d'un paysage vers la forêt en X années, et proche, sur les rochers, quelques espèces, j'avais dit 4, elle en dénombre 14, et en fait, il y en aurait 21. C'est-à-dire qu'on n'y connaît rien encore. Il y a là beaucoup à chercher, parce que ces espèces-là sont des bio-indicateurs de très haut niveau, par exemple, ne serait-ce que pour ça, pour nous aider dans la compréhension du lieu dans lequel nous vivons, mais peuvent servir aussi, bien sûr, à d'autres choses. En tout cas, de ce point de vue, on en est au balbutiement. Donc voilà cette installation située en Ardèche, à Saint-Mélanie, dans un lieu qui est très, très sauvage. Un projet qui n'est pas réalisé, mais qui se réfère à Lanzarote, où la partie du tiers paysage que vous voyez ici est une espèce de chaos rocheux volcanique. Lanzarote est une île volcanique. Le parti aménagé exploitant d'anciennes salines se situe ici, avec une amenée de l'eau de la mer. La mer est là, et un dessalement par le soleil et un traitement de l'eau et une répartition, enfin, mais pratiquement rien dans le tiers paysage. Il s'agissait de combiner les deux pour faire accepter cette partie-là. Ça n'a pas été réalisé, mais ça pourrait. Enfin, le vrai projet qui parle le plus, et franchement, de cette question, quand la proposition a été faite, j'imaginais que jamais elle ne serait acceptée, c'est le parc Matisse à Lille. Le parc Matisse fait 8 hectares. La gare TGV est ici, la gare Flandre par là, donc ça c'est TGV Europe. Le projet fait avec l'agence Empreinte et l'artiste Claude Courtecuisse consiste, sur ces 8 hectares, à proposer dans un vide un objet qui s'en détache. Je reviendrai sur la forme de cet objet dans une leçon intitulée « La forme et l'information ». Voilà, en tout cas, cet objet qui est le résultat d'une colline, le reste, disons, d'une colline qui existait et qui occupait à peu près cette surface-là. C'était l'excavation, la somme, le volume total de tous les gravats, si vous voulez, qu'on avait retirés pour faire la gare TGV. Et ici, c'est seulement le sommet, à 7,50 m de haut, qui est donc posé, qui apparaît au-dessus de cette surface plane et qui scénographie un temps de nature qui peut changer. Le paysage est fait au départ, je pensais faire une plantation là. On a mis quelques espèces qui sont mortes, évidemment. La terre était très mauvaise. Et on ne voulait pas s'en occuper. C'était bien ça l'objet. Donc il y a tout un paysage qui s'est constitué et une observation annuelle qui est le dénombrement de ce qui s'y passe. Donc là, aujourd'hui, c'est repris en main de façon un peu sérieuse. Ça a mis longtemps. C'était 10 ans, un peu plus que 10 ans, que le projet a été mis en route par la mairie de Lille. Mais pendant un certain temps, étant donné qu'il y avait des bâtiments qui se sont construits très près, les habitants ont assez mal supporté l'idée de voir une friche sous leurs yeux, soclée en plus comme un objet rare, se sont plaints et la ville a pris la décision de cacher tout ça avec des arbres parce qu'il n'était pas question de détruire, c'était trop goûteux. Et maintenant, on a obtenu l'idée d'enlever ces arbres qui ont beaucoup poussé quand même depuis. Hein. Ils sont devenus... il faut du temps pour faire accepter le seul travail de la nature. Donc voilà un morceau de tiers-paysage soclé, à 7,50 m de haut, difficile d'accès. Quand on y va une fois par an, on trouve des ballons de foot, on renvoie par terre, et puis on fait le dénombrement. Sinon, c'est une gestion de jardin en mouvement partout autour. Je passe là-dessus. Et puis, l'exemple que j'ai déjà cité, c'est pour ça que je ne reviens pas dessus, je fais très très vite, d'un usage d'un délaissé. Là, cette fois-ci, c'est plus la création, c'est la prise en main d'un délaissé, qui était les 6 hectares du jardin de Jules Rieffel à Saint-Herblain, avec les étudiants qui travaillent dessus. Ça devient un jardin en mouvement. Bon, c'était un délaissé absolu. Il y avait 12 ans, je crois, d'abandon. Hein. Donc, là-dessus, puisque je l'ai déjà montré, je ne reviens pas dans les commentaires. Simplement, vous dire qu'il s'agit de quelque chose où on intervient que comme un jardinier sculpteur, et non pas avec des machines et en faisant des plantations. Et bien sûr, voilà. Et puis, le jardin d'Ortie, qui est un délaissé, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler aussi, qui, lui, provient de l'humidité dans un fond extrêmement riche en matière organique, pour des raisons d'effluent de la ville, donc d'une certaine pollution, et qui a été ici réinterprété en un jardin au profit d'un discours particulier, hein, qui est celui de la contestation d'une loi sur les produits naturels peu préoccupant. C'est comme ça qu'on appelle le purin d'ortie, pour donner un exemple. J'ai déjà parlé de ça, je ne reviendrai pas dessus. Si ce n'est pour en montrer les images, qu'est-ce qu'on fait avec un délaissé d'ortie? C'est le comble, hein, là. Donc, voilà. Et je vais terminer. Non, c'est la cérémonie. Je ne reviens pas sur ces images-là, même si elles ont pour moi beaucoup d'importance. Je dis simplement qu'il y a une possibilité d'utiliser tout, y compris en laissant une part du délaissement dedans. La question se pose aujourd'hui pour les orties de savoir si on en aura toujours autant, parce qu'il y a une sorte de dépollution progressive qui fait que la surdose de nitrate qui fait venir toutes ces plantes-là n'est plus tout à fait suffisante. Enfin, il faut beaucoup de richesse sélective parfois pour obtenir ces orties. Alors, le dernier projet qui parle de ça, complètement ouvertement, s'appelle le jardin du tiers-paysage, et il est placé sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Ça fait 3 hectares. C'est 3 hectares de béton perché qui ont été construits par les Allemands avec une surface qui se divise en 3 parties parce que la guerre étant finie, les Allemands étant partis, se sont arrêtés dans les travaux. Donc là, la partie qui est devant nous s'appelle les chambres d'éclatement. On voit les poutres posées sur les murs, mais qui sont espacées très peu l'une d'entre elles, et qui étaient censées piéger les obus. Les éclatements devaient se faire de façon à ne pas blesser l'énorme dalle de béton qui peut faire entre 4 et 9 mètres d'épaisseur, c'est considérable, et qui protégeait les sous-marins. En dessous, il y a des loges qui communiquent avec l'eau. Deuxième partie où les murs étaient dressés, mais pas encore couverts, et la troisième, rien. Donc, un projet se fait, commandé par le lieu unique à Nantes, sur cette dalle en 3 parties. L'une, que j'appelle le bois des trembles, où un bosquet surgit depuis les chambres d'éclatement en traversant au travers des poutres. Les trembles, parce que c'est censé faire trembler la base, modestement. Le jardin des orpins, parce que là, on est en pleine lumière, il y a moyen de faire pousser des choses directement sur le béton, ou presque. Et puis, le jardin des étiquettes, c'est-à-dire un endroit où il ne se passe rien, et où on a rien planté soi-même, et où on attend, là, un petit peu comme le sommet de l'île qui se trouve, parce que ça a une forme d'île, au parc Matisse. Donc, ça donne lieu à quelque chose comme ça, il y a maintenant 2 ans, parce que ça évolue, le jardin va être inauguré en juin, donc il y a un temps de maturation. Ces trembles ont grossi maintenant, ils émergent de cette surface des chambres d'éclatement. Ils sont plantés dans des conteneurs qui sont modulables, c'est-à-dire qu'on peut les agrandir, et ils sont évidemment irrigués. Là, il y a un artifice. Et le jardin du tiers-paysage, à proprement parler, se situe plutôt vers le jardin des étiquettes, évidemment. Le jardin des orpins insiste sur la capacité d'une série végétale, il y a 35 espèces là qui sont mises en place, à vivre dans des conditions qui sont les plus frugales possibles. Il n'y a plus rien pratiquement pour les nourrir. Il faut juste un peu les désherber au départ. Ça a été pris sur la possibilité qu'il y avait, et qu'on voyait déjà à l'époque avec les ombiliques et ces polypodes, de certaines espèces de vivre dans les conditions les plus maigres qui soient. Il n'y avait pas de... Donc ça donne lieu à ces paysages-là. Ils sont très à plat, on est collé pratiquement sur le béton. On a juste un apport de substrat très fin à base de sol complètement poreux et beaucoup de cailloux. Et les sédums, vous savez, sur les orpins, les sédums sont très présents, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des euphorbes, il y a des fétuques, il y a des arabis, il y a un certain nombre de plantes qui parviennent à pousser. Et comme ça, ici, on a un mélange de formes et de fétuques. Tout ça se développe dans des conditions très, très sommaires et très bien. Alors, il y a une passerelle qui est installée pour voir aussi ces éléments de haut. Il y a des valérianes qui s'installent très, très bien dans ces milieux-là. Donc, c'est ça, le jardin des orpins, qui, bien sûr, va couvrir probablement complètement ces petites couches de substrat. Et ils sont séparés par un canal qui sera... Là, vous voyez des photos d'un chantier. Ce n'est pas encore terminé. Qui traverse ces différents murs. Et puis, le jardin des étiquettes, dont on a déjà parlé, où là, les étudiants du lycée Jules Rieffel viennent avec un professeur de botanique faire le relevé de ce qui apparaît progressivement au fur et à mesure. Donc ça leur permet de voir quelles sont les pionnières, quelles sont les vivaces qui s'installent, quelles sont les premières plantes ligneuses qui vont venir. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Mais on sait qu'il y a eu, avant que nous soit proposé à travailler cette... je suis un peu en retard, excusez-moi, ce sujet, qu'il y avait eu un pommier qui poussait. Puis ils ont nettoyé, c'est dommage. Il y avait un pommier qui parvenait à pousser. Ouais, ça, c'est la cartographie qu'on va rajouter, puisqu'on va le peindre sur la dalle elle-même, la cartographie du tiers-paysage de l'estuaire. Parce que ça renvoie, toutes ces questions renvoient à un tiers-paysage beaucoup plus vaste. On étudie alors autre lieu, en ce moment, le long de la Casa del Tunnel à Tijuana, frontière entre le Mexique et les États-Unis, un petit jardin qui va se solder par un jardin vivrier entouré d'un tiers paysage, comme protégé par lui. C'est ça le projet de Tijuana, et qui va venir se coller contre l'un de ces murs-là, mais côté mexicain. Et c'est un mur tragique, hein, qui plonge bêtement dans l'océan, et puis voilà. Et enfin, je termine vraiment là-dessus, ce que, en ce moment, nous sommes en train de faire à partir d'une commande qui vient du centre André Malraux, donc c'est Sarajevo, c'est un projet qui se passe en Herzégovine, Stolats, et on voit la ville d'ici de Stolats, avec ce qui a été réhabilité après la guerre, c'est-à-dire très peu de monuments, qui sont surtout les monuments religieux, là une mosquée, mais ailleurs il y a une église orthodoxe, et puis quelques maisons qui sont réhabilitées aussi, et encore beaucoup, beaucoup d'abandon, et toute la Bregava complètement abandonnée. On nous a demandé, et c'est l'équipe Coloco qui s'en est chargée, de mobiliser, enfin j'ai supposé que c'était la meilleure façon de faire, pour ça que j'ai fait appel à eux aussi, des gens qui avaient envie d'intervenir, il fallait qu'il y ait des bonnes volontés, donc ils ont réussi à mobiliser une trentaine de personnes pour travailler sur la rivière, et la rivière étant considérée comme le jardin. Donc, c'est une ville qui est encore très abîmée. La rivière est d'une incroyable pureté, avec une diversité à l'intérieur qui se voit à l'œil nu. Vous voyez les truites comme ça ferait une émeute chez nous. Hein. On voit des tas de choses, des couleuvres et des écrevisses. Et on se situe dans un univers très délabré en même temps. Autrefois, il y avait des potagers, des vergers, il y a encore des moulins qui sont complètement effondrés. Et tout leur travail, ça c'était il y a un peu plus d'un an, a consisté à d'abord enlever les déchets, ensuite à tailler dans cette masse pour pouvoir accéder, notamment au bord de la rivière, recréer des plages, des zones d'accueil. Ça a pris 15 jours très intenses. Ils sont retournés en avril et de nouveau en juillet 2011. Et il y aura une troisième session où il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont s'additionner, si vous voulez, par rapport à ces premières modifications. D'abord, un éclaircissement et une manière de voir, ensuite de se positionner dans l'espace. Donc, il y a un petit mobilier qui a été construit, parfois avec l'aide des artisans locaux d'ailleurs, et positionné dans des endroits où on estime qu'il faut venir se placer pour regarder ce qu'est devenu un terrain qui est un immense délaissé, mais avec une belle richesse, et sur lequel d'ailleurs on peut intervenir très très peu pour revenir à cette richesse. Donc c'est très sommaire, hein, mais très important parce que c'est dans des points stratégiques, c'est aussi des systèmes de cadrage, d'approche au-dessus d'un vide, pour voir des endroits comme ceux-là, qui sont des lieux de rassemblement aujourd'hui, et qui avaient été complètement abandonnés pendant la guerre. Bon, il y a eu des fêtes, d'ailleurs, qui ont été faites immédiatement après la fin de ces premiers travaux, et puis des discussions, y compris avec les habitants. Et l'un des enjeux de Francis Bueb, qui dirige le centre Malraux, c'était de dire, est-ce qu'on peut remettre en discussion, par le jardin, ici le jardin et le tiers paysage, bien sûr, ensemble, quelque chose, les remettre en discussion entre eux, est-ce que c'est une possibilité? Et on pense que oui, un peu, pas sûr de tout régler avec ça, mais une petite partie. Donc les étapes suivantes seraient vers les bâtiments, mais entre-temps, il y a eu des travaux avec les écoles, avec les enfants. Et enfin, avant-dernière image ici, le relevé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, comme dans le cas du jardin en mouvement aussi d'ailleurs, on peut très bien faire le plan, mais après être intervenu. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait ici. Il y a eu une exposition et des conférences qui ont concerné l'action de ces 30 intervenants très jeunes. Certains sont encore étudiants sur le tiers paysage de Bosnie-Herzégovine. Cette dernière image-là annonce le sujet prochain. C'est une plaque métallique en fer sur laquelle sont venues se poser des feuilles d'un prunus. Et les feuilles sont parties par le vent, mais la marque est restée. C'est un tableau. Alors, qui l'a signé ?